et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Et bonsoir à Gildas Guyot.
Bonsoir,
on est vraiment ravis de, que vous nous rejoigniez sur l'antenne d'Agora FM, parce que ça fait un moment qu'on essaye de joindre et puis il y avait eu quelques soucis techniques. Je suis vraiment très très contente de m'entretenir avec vous, car j'ai, on va dire, dévoré, sans mauvais jeu de mots, votre premier roman, qui s'appelle Le goût de la viande, et qui est sorti en septembre, je crois, aux éditions Inuit. Et ces éditions Inuit, juste un petit mot, je précise que c'est aussi leur premier long, c'est-à-dire leur premier grand roman à sortir chez cet éditeur, parce qu'on évoque souvent ici leur format plus court, la collection qui s'appelle la collection Polaroid, consacrée à un format qu'on appelle les novellas, des 120 pages. Là, on a un roman, et je trouve qu'ils ont très très bien inauguré cette collection avec votre roman, Gildas Guyot. On va dire que vous avez une activité professionnelle et qu'en dehors de ça, ben, vous écrivez et que vous avez publié ce premier roman. Pour vous présenter, on n'ira pas plus loin. Ça vous convient ?
Oui, ça m'a convient, sauf que c'est pour mon éditeur. En fait, moi, je suis pas le premier roman qu'ils éditent. Ils en ont édité d'autres avant moi. La mer Méditerranée, enfin, il y en a plusieurs comme ça qui. Enfin, la mer Méditerranée, c'est les derniers qui ont sorti. Non, moi, c'est pas le premier qui sort en grand format, en fait.
Mais
c'est juste un détail.
Oui, vous avez raison. Mais vous savez, on est très égocentrique dans le monde du polar, et c'est le premier roman noir. C'est pour ça. Dans Le goût de la viande, vous mettez en scène un jeune homme au début, qui s'appelle Hyacinthe Kergoulet, que l'on découvre en bien mauvaise posture en début de ce roman. Je vous laisse nous raconter le tout début du roman.
Alors, le tout début du roman, en fait, c'est effectivement un jeune appelé pendant la Première Guerre mondiale, qui se retrouve à se réveiller. En fait, c'est plutôt une renaissance au milieu d'un charnier de cadavres sur le champ de bataille de Verdun. Et donc, il se réveille au milieu de tous ses corps, et pour lui, ça va être le début d'une toute nouvelle vie qui va complètement occulter celle qu'il avait pu avoir avant et le transformer en espèce de monstre, malgré le statut de héros qu'il va avoir après la guerre et qu'il ne va pas supporter, en fait. Et donc, toute sa vie, c'est ça, c'est effectivement vivre avec ce statut qu'il ne supporte pas, et c'est surtout sur sa reconstruction qui lui paraît absolument impossible.
Alors, on va plus longuement parler, effectivement, en plus de cette dualité entre ce héros et ce monstre, et auquel on va énormément s'attacher tout au long de ce roman. Mais pourquoi avoir choisi cette époque ? Bon, on comprend bien, il faut un moment de guerre pour obtenir la scène de départ. Mais pourquoi avoir choisi cette époque de 14-18 et la suite, et de commencer par la grande boucherie, cette guerre de 14-18 ?
Alors, ça, c'est un peu lié plutôt à ma culture, parce que je suis Lorrain et que j'ai longtemps habité juste en dessous de Verdun, à Bar-le-Duc. Donc, c'était la base arrière de Verdun. Et donc, pendant toute ma scolarité, quand j'étais gamin, en fait, on avait le droit chaque année à cette bataille. Et puis, comme on était à côté, effectivement, on allait régulièrement sur les lieux, et ça m'a donné matière à avoir quelques informations qui m'ont permis de je connaissais mieux ce sujet-là que les autres, donc c'est plutôt un choix de facilité de ma part, en fait, d'avoir choisi cette bataille-là plutôt qu'une autre.
Oui, et peut-être quelques réminiscences aussi.
Voilà.
Et donc, Hyacinthe Kergoulet, qu'on va donc suivre, va suinter toute sa vie ce drame et cette pourriture. Je vous cède dès le début une très belle phrase en plus, enfin terrible et très belle. Des effluves innommables s'accrochaient à vous, traversaient vos frusques, pénétraient vos chairs, jusqu'à ce que vous soyez vous-même devenu cette odeur. Alors d'un côté, Hyacinthe, il va devenir un héros, mais il va devenir cette odeur pestilentielle toute sa vie. Il va devenir une espèce d'ordure qui pue tout le temps. Comment avez-vous imaginé ce personnage, et comment avez-vous réussi, ça vous allez peut-être pas réussir à me répondre, à nous le faire attacher, à vouloir juste savoir qu'est-ce qui va lui arriver ?
Alors après, moi, je ne sais pas si j'ai réussi. En tout cas, le but, c'était effectivement de jouer un peu sur ce syndrome post-traumatique que connaissent beaucoup de soldats qui sont revenus d'un conflit, quel que soit le conflit d'ailleurs. Et de ne pas accepter le fait que eux soient revenus et pas leurs compagnons, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de me mettre dans sa peau et d'imaginer le monstre qu'il imaginait être, Et en allant toujours plus loin, dans la mesure où, comme il n'arrive pas à faire accepter aux autres qu'il est devenu un monstre, à pousser toujours le bouchon un peu loin dans l'ignoble, en fait, et qui fait qu'il devient de plus en plus, effectivement, une ordure, quoi.
Alors, il a quand il est dans ce charnier au milieu, parce qu'il est enseveli sous les cadavres. Je laisse quand même quelques détails pour que le lecteur ait envie, parce que c'est vraiment un excellent roman, et malgré les quelques choses un peu bizarres qu'on va dire sur ce charnier, il faut vraiment commencer ce roman. Il y a une sorte, en fait, de renaissance, effectivement, parce que il sort d'une espèce de matrice ensanglantée, cet homme, quand il renaît comme ça.
Oui, en fait, j'ai vraiment essayé de concevoir cette scène qui est fondatrice pour le personnage qu'il devient, en fait, pour cette nouvelle vie, comme une naissance. Et c'est pour ça aussi que ces sens renaissent les uns après les autres, comme on pourrait imaginer qu'un nouveau-né puisse découvrir ses sens au moment d'une véritable naissance, en fait. Et c'est pour ça qu'effectivement la matrice, comme vous dites, de chair, était importante pour moi, puisque c'est un peu la...
De chair et de sang. De chair et de sang.
Une véritable naissance.
Et donc, il doit avoir des souvenirs pré-traumatiques ou pré-naissance, puisqu'il va développer toute sa vie. Alors ça, c'est une des curiosités des romans jusqu'au bout, qu'on évidemment ne déflorera pas. Mais il va dévoiler petit à petit une appétence pour les moribonds. Et vraiment une appétence très particulière, voire jusque pour une espèce de viande froide. Je rappelle que le titre du roman s'appelle « Le goût de la viande ». Cette idée de cette appétence pour... Il y a des gens qui aiment bien aller se recueillir sur des tombes. Mais là, c'est vraiment le cadavre, quoi, la viande froide. Il aime bien.
Mais c'est pas tant qu'il aime bien, c'est qu'en fait, il essaie de comprendre... Enfin, il essaie de comprendre pourquoi la mort n'a pas voulu de lui. Et donc, à partir du moment où il essaie de comprendre ça, en fait, il essaie de se rapprocher le plus possible effectivement des cadavres pour comprendre pourquoi ce cadavre pourquoi cette personne a eu le droit de elle mourir et pas lui. Donc effectivement, il a un petit peu effectivement tendance à chercher les morts, et pas forcément les morts les plus standards, on va dire.
Oui, c'est pas comme dans les chansons de Georges Brassens. Et ce roman, parle un petit peu de la construction. Moi, j'ai trouvé qu'il était, mais je peux me tromper, donc n'hésitez pas à me contredire, j'ai trouvé qu'il était un peu construit comme une pièce de théâtre, avec plusieurs actes. Donc on a parlé du premier, ce bout de guerre où il va donc ensuite être soigné de ses blessures. Et puis on a, comme dans tout bon roman noir d'ailleurs, ou tout bon roman policier, mais c'est plus un roman noir qu'un roman policier, il y a un coup de théâtre à la fin de chaque acte, jusqu'au dénouement final, lui aussi coup de théâtre. Est-ce que il y avait l'idée de cette construction, ou ça s'est dessiné au fur et à mesure de votre écriture?
Alors, ça s'est certainement décidé au fur et à mesure de mon écriture. Je ne sais pas si... moi, je ne vois pas un coup de théâtre à chaque fin de chapitre. J'ai peut-être un petit quelque chose qui incite à aller voir ce qui se passe après. Mais en termes de construction par rapport à une pièce de théâtre... Alors après, il n'y a pas de dialogue du tout. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être ce côté-là. C'est peut-être, là, je bafouille un peu, mais... C'est tout ce que je m'emballe. Le côté théâtre, en fait, ce qui me bloque dans cette appellation, c'est juste effectivement qu'il y a zéro dialogue dans ce livre.
Tout à fait, oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est que... et c'est, pour moi, c'était pas chaque chapitre, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est vraiment des parties qu'on pourrait nommer et qu'on ne va pas nommer, parce qu'il y a le héros du retour... le retour du héros, qui est assez emblématique, puisque je n'imaginais pas qu'on pouvait se taper tant de jeunes et jolies jeunes femmes... en 18 au sortir de la guerre. Et puis il y a une période qu'on va évoquer qui est magnifique quand il devient artisan. Voilà, c'est toutes ces périodes là plus que des actes, on va dire. Voilà.
D'accord. En tout cas, c'était pas une volonté de, d'écriture de le faire de cette manière-là. Ça s'est un petit peu imposé à moi dans ce cas-là, un peu naturellement, mais j'ai pas fait exprès en tout cas.
Voilà. Alors ce que vous avez fait exprès, c'est à un moment donné. Donc pour moi, la troisième partie de ce roman, c'est la meilleure période de sa vie. Quand je dis de sa vie, c'est évidemment la vie de Hyacinthe. C'est quand il devient artisan. Et on sent, enfin moi j'ai senti dans ce très très beau passage, il y a des descriptions magnifiques de l'odeur du bois, de la sciure. Là les cinq sens de Hyacinthe sont totalement revenus à la vie et il va sentir, il va voir, il va entendre le bruit du bois, il va se retrouver chez un artisan. Pourquoi avoir choisi ce milieu? Il y a de très belles pages sur cet artisan de la marine.
Parce que alors effectivement déjà il revient chez lui en Bretagne. Moi c'est une région que j'affectionne particulièrement, donc ça me permettait effectivement de parler un peu de cette région. Et ensuite la région de la Bretagne est très liée à la mer, donc la mer forcément amenée vers les bateaux, et j'aime beaucoup le bois aussi. Et donc par lien de cause à effet, je lui ai trouvé un métier de charpentier de marine, effectivement.
Charpentier de marine,
ce qui n'était pas forcément évident. Mais c'est ça qu'en fait, après, je me suis renseigné un peu sur comment ça fonctionnait. Et j'essaie en me documentant, je me suis dit que c'était peut-être le meilleur métier pour lui. Surtout quand on connaît ensuite, ça me permettait effectivement de donner du fond à la suite par rapport à ce qui va devenir après et la profession qui va ensuite.
Effectivement, il va gagner quelques compétences pour la dernière profession qu'il va exercer dans sa vie.
C'est ça. Donc ça me permettait aussi de crédibiliser ça.
Et puis, je vais vous citer, à un moment vous dites, et puis, j'allais devoir accepter d'être heureux, le jeu étant évidemment Hyacinthe. Et en fait, à ce moment-là, on se dit, ça y est, il en est sorti de tous ces traumatismes et cauchemars, il va rentrer dans les codes sociétaux, puisqu'il va rencontrer une femme, on pense qu'il est amoureux, il va enfanter, il a une fille. Et là, je trouve que vous commencez le travail de sape. Et là, petit à petit, on voit de plus en plus se dessiner ce monstre. Et en fait, on a l'impression que toute la dernière partie du roman, votre désir d'écriture, c'était de comment rendre détestable un être humain dans ses actes, dans ses manières, jusqu'à son comportement pendant la Deuxième Guerre mondiale.
C'est-à-dire qu'en fait, il commence à redevenir effectivement quelqu'un de qui commence à s'accepter à partir du moment où il tombe profondément amoureux, de sa femme, de la jeune fille qui va devenir sa femme. Et il est profondément heureux d'être père. Et en fait, à partir de ce moment-là, il va se demander pourquoi il aurait le droit à ce bonheur-là. Et à partir de ce moment-là, il va effectivement les entraîner dans sa décadence complète. Parce qu'en fait, il n'accepte pas de pouvoir redevenir heureux, en fait. Au moment où il le redevient, il se souvient qu'en fait, il ne devrait pas l'être, parce qu'en fait, il est certainement à la place d'un autre, qui est mort à sa place sur le champ de bataille de Verdun, et tout ce bonheur-là, normalement, ne devrait pas lui être accessible. Et à partir de là, effectivement, il va se consacrer à sa destruction, enfin, essayer de se détruire.
Mais il se détruit, mais il n'y a pas que lui.
La Deuxième Guerre mondiale va l'aider aussi dans les choix qu'il va faire à devenir de plus en plus horrible.
Oui, c'est ça. On dirait qu'à chaque fois qu'il est confronté à un choix, il va opter pour la mauvaise solution. Alors, certainement pour s'autodétruire, ce qui va aller jusqu'au boutisme de l'autodestruction, n'est-ce pas? Mais on n'est pas obligé non plus. Voilà, il va faire énormément de mal à sa femme, à sa fille, qui va fuir d'ailleurs, qui va partir. Et à la plupart... À la plupart des gens, parce qu'il va rester seul, finalement, longtemps, très longtemps, parce qu'il va vivre très longtemps. Vous choisissez de le faire vivre très vieux, certainement pour nous le rendre détestable jusqu'au bout. Et pour autant, on est attaché à lui. Est-ce que c'était un souci aussi d'écriture lorsque vous écriviez cette deuxième partie de roman, de le garder quand même proche de nous, et on a vraiment envie de savoir ce qui lui arrive à cet homme?
Alors je sais pas, oui, c'était une volonté, parce que moi j'adore j'adore les anti-héros, donc j'ai essayé de faire de ce personnage un anti-héros, quelqu'un à qui on s'attache malgré le fait qu'il est profondément pathétique. Si j'ai réussi, j'en suis ravi, mais oui, c'est un peu le but de créer un personnage effectivement qu'on puisse ne, parce que les anti-héros sont un peu, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on les aime malgré toute leur tare. Et donc voilà, moi je suis très attaché à ce genre de lecture, j'ai essayé de rentrer dans ce cadre-là. Et le fait que ce soit écrit sous forme, effectivement, comme si c'était une confession, en fait, c'est les confessions d'Hyacinthe, ce livre, ben, ça m'a permis aussi, effectivement, de ne retranscrire que ce qu'il voulait bien nous transmettre et confesser juste les actes les plus odieux de sa vie, en fait. Et il occulte complètement ce qui aurait pu paraître normal, en fait. C'est pour ça que c'est très très noir, effectivement, c'est assez condensé, et tout paraît noir, parce qu'en fait, lui ne s'attache qu'à nous retransmettre que ce qui est le pire de sa vie, en fait.
Et pour nous décrire le pire de sa vie, et pour nous décrire quand même souvent des ignominies, des choses terribles, ou alors des choses qui pourraient être, on va dire, peu ragoûtantes, vous avez utilisé un style éblouissant. Moi, j'ai été vraiment enthousiasmée par votre style. On a un travail sur la langue. Vous avez des phrases qui sont voluptueuses. Or, pour ce genre de récit, c'est quand même pas si évident que ça. On sent une envie chez vous aussi de lier les mots, de faire rouler les mots, de concocter des phrases qu'on a envie de dire à haute voix, de faire rouler aussi les sonorités. Il y a un côté très lyrique et très poétique. Je pense que ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail.
Ben merci, j'ai bien fait de venir. Ça fait toujours plaisir. J'aime bien chercher effectivement le mot qui colle le mieux à ce que j'ai envie de dire. Donc oui, je passe pas mal de temps. Après, là, sur la construction des phrases, moi j'aime beaucoup, par exemple, la manière dont écrivait Desproges, même si c'est pas. Enfin, je trouve que c'est un auteur qui n'est pas assez connu pour ses écrits, c'est dommage. Mais voilà, j'aime beaucoup ce genre de construction de phrases un peu alambiquées, qui tournent un peu autour. Donc j'ai essayé de faire aussi, c'est de la même manière que j'aime les anti-héros. Forcément, on est un peu pollué quand on écrit parce qu'on a lu, quoi.
Oh bah écoutez, j'espère que beaucoup seront pollués par la lecture de votre roman, parce que c'est une expérience assez extraordinaire, où moi j'ai beaucoup pensé aussi à des poésies. Je trouve qu'il y a un ton très très poétique, et c'est vrai que bon, parce qu'on va beaucoup parler de cadavres, moi j'ai beaucoup pensé à Baudelaire et à La Charogne, mais bon, ça c'est très personnel, c'est ma lecture personnelle. On arrive à la fin de l'interview, je voudrais juste vous demander, j'espère que le suivant est en route.
Oui, il est en route, mais je tâtonne pour l'instant sur divers. Voilà, je me pose des questions. J'ai deux pistes et je ne sais pas laquelle prendre complètement pour l'instant.
On va vous dire avant de se quitter l'une après l'autre. Ainsi, on aura le plaisir de beaucoup vous lire bientôt.
Un choix, un moment.
Bien sûr, il n'y a pas de problème. En tout cas, on recommande fortement la lecture de votre roman Le goût de la viande. C'est sorti aux éditions Inuit et chez tout bon libraire, ça fera d'excellents cadeaux de Noël. Merci beaucoup, Gildas. À bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Dwayne and Barry.